J'aperçus alors comme l'ouverture d'un puits dont l'eau était à moins d'un mètre du bord. L'eau, ai-je dit, je ne sais quel affreux liquide c'était, recouvert d'une pellicule irisée, interrompue et brisée par places et laissant voir une boue noire et hideuse. Debout, près de la margelle du puits, le sorcier tenait la main gauche sur la tête de la petite fille. De la droite, il faisait des gestes étranges pendant qu'il prononçait une espèce d'incantation au milieu du recueillement général. De temps en temps, il élevait la voix comme s'il appelait quelqu'un. « Djouman ! Djouman ! » criait-il. Mais personne ne venait. Cependant, il roulait les yeux, grinçait les dents et faisait entendre des cris rauques qui ne semblaient pas sortir d'une poitrine humaine. Les momeries de ce vieux coquin m'agaçaient et me transportaient d'indignation. J'étais tenté de lui jeter sur la tête une des pierres que j'avais sous la main. Pour la 30e fois, peut-être, il venait de hurler ce nom de Djouman. Quand je vis trembler la pellicule irisée du puits, et à ce signe, toute la foule se jeta en arrière. Le vieillard et la petite fille demeurèrent seuls au bord du trou. Soudain, un gros bouillon de boue bleuâtre s'éleva du puits, et de cette boue sortit la tête énorme d'un serpent, d'un gris livide, avec des yeux phosphorescents. Involontairement, je fis un haut-le-corps en arrière. J'entendis un petit cri et le bruit d'un corps pesant qui tombait dans l'eau. Quand je reportai la vue en bas, un dixième de seconde après peut-être, j'aperçus le sorcier seul au bord du puits, dont l'eau bouillonnait encore. Au milieu des fragments de la pellicule irisée, flottait le mouchoir qui couvrait les cheveux de la petite fille. Déjà, la pierre était en mouvement et retombait sur l'ouverture de l'horrible gouffre. Alors, tous les flambeaux s'éteignirent à la fois, et je restai dans les ténèbres au milieu d'un silence si profond que j'entendais distinctement les battements de mon cœur. Dès que je fus un peu remis de cette horrible scène, je voulus sortir de la caverne, jurant que si je parvenais à rejoindre mes camarades, je reviendrais exterminer les abominables hôtes de ces lieux, hommes et serpents. Il s'agissait de trouver son chemin. J'avais fait, à ce que je croyais, une centaine de pas dans l'intérieur de la caverne, ayant le mur de rocher à ma droite. Je fis demi-tour, mais je n'aperçus aucune lumière qui indiquât l'ouverture du souterrain. Mais il ne s'étendait pas en ligne droite. Et d'ailleurs, j'avais toujours monté depuis le bord de la rivière. De ma main gauche, je tâtais le rocher, de la droite, je tenais mon sabre, et je sondais le terrain, avançant lentement, avec précaution. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure peut-être, je marchais sans trouver l'entrée. L'inquiétude me prit. Me serais-je engagé, sans m'en apercevoir, dans quelque galerie latérale au lieu de revenir par le chemin que j'avais suivi d'abord? J'avançais toujours, tâtant le rocher, lorsqu'au lieu du froid de la pierre, je sentis une tapisserie qui, cédant sous ma main, laissa échapper un rayon de lumière. Redoublant de précaution, j'écartai sans bruit la tapisserie et me trouvai dans un petit couloir qui donnait dans une chambre fort éclairée, dont la porte était ouverte.